Europe 1 Culture Média. Thomas Hill.
Bonjour à tous et bienvenue dans Culture Média. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous hier, eh bien d'abord c'est une grave erreur. Vous auriez su pourquoi je remplace Philippe Vandel ces jours-ci. Le seul moyen de le savoir maintenant, c'est d'aller sur europe1.fr pour le replay. Mais faites-le quand même après 11h parce que d'ici là, on a un très beau programme à vous offrir. Et ça commence comme d'habitude dans un instant par le journal des médias de Louise Bernard, dite Loulou les tuyaux, qui nous donnera aussi les audiences d'hier. Vous aurez le droit également au télescopage de Bruno Donnet, ça c'est à 9h44 précise, et la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoine après 10h. Notre infomédia s'intéresse aujourd'hui à la diversité dans les médias. Le mot est partout en ce moment, mais qu'est-ce qu'il recouvre exactement? On en parlera avec la première chargée de la diversité à l'AFP, l'agence France Presse, Jessica Lopez. On recevra ensuite l'humoriste et actrice Mela Bédia qui réalise sa première série à la fois drôle et touchante. Ça s'appelle Miskina la pauvre et ça sort demain sur Amazon. Et dans la deuxième heure de Culture Média, c'est une autre actrice qui nous accompagnera, Anna Moudlalis, qui vient nous présenter Sorcière. C'est une lecture musicale à laquelle elle participe avec beaucoup d'autres actrices. C'est au Théâtre de l'Atelier. Voilà, vous connaissez tout le programme. On est ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti.
9h-11h. Europe 1 Culture Média. Thomas Hill.
Bonjour Louise Bernard, vous allez bien ?
Bonjour Thomas, on peut parler de ce surnom là, Loulou
les tuyaux ? Loulou les tuyaux, bah oui, vous avez toujours des infos que personne n'a, évidemment. Alors au sommaire de votre journal des médias.
Bon, ce matin, on parle de deux gros dossiers de l'univers des médias. La possible vente d'M6, va-t-elle vraiment pouvoir se faire ? Et puis autre dossier, la chronologie des médias. Alors derrière ce nom un peu barbare, des enjeux pour vous, téléspectateurs, pour le cinéma français, pour les plateformes. Bref, gros dossier, je vous avais prévenu. Et puis quelques nouveautés séries de France Télévisions dévoilées.
D'accord, beaucoup de gros dossiers gros ce matin, dossier. J'ai l'impression. Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir.
Là, en revanche, ce ne sont pas de grosses audiences. Devant TF1 hier, Good Doctor, 2 560 000 téléspectateurs, 13,5% d'audience.
Ah oui, c'est en hausse.
Non, mais Good Doctor, c'est souvent dans ces eaux-là. Mais là, c'est même un bon score pour la série. Ah ouais. Ça remonte par rapport aux deux précédentes semaines.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les séries américaines ont de plus en plus de mal à la télévision française. Aujourd'hui, il n'y a plus que la fiction française qui fonctionne. Finalement.
Mais parce qu'on met de gros moyens aussi dans la fiction française aujourd'hui. Et puis deuxième, c'est M6 avec Le Meilleur Pâtissier. Alors ça remonte aussi cette semaine, 2 130 000 téléspectateurs, 12,2% de part d'audience. Et M6 est leader sur la fameuse cible, hein, les FRDA de moins de 50, 25,7% hier soir. Et puis troisième, c'est France 2 qui était deuxième, je suis désolée. 2 310 000 téléspectateurs hier soir devant le téléfilm T'en fais pas, je suis là. 11,9% de part d'audience. France 2 qui est devant en nombre de téléspectateurs, d'où mon erreur en part d'audience. Ça reste M6.
Europe 1, le journal des médias.
Alors M6, justement, la vente d'M6 est-elle faisable ? Le calendrier pose en tout cas problème.
Oui, c'est ce qu'on comprend, hein, suite aux interventions du président de l'ARCOM, c'est le nouveau nom du CSA, et celui de l'autorité de la concurrence devant le Sénat. Tous les deux ont été interrogés sur la faisabilité de la vente. On en a déjà parlé ici, elle doit avoir lieu avant mai 2023, car c'est la date à laquelle l'autorisation de diffusion d'M6 doit être renouvelée par l'ARCOM. Et donc la loi prévoit que l'actionnaire ne peut alors plus changer pendant 5 ans, ce qui laisse moins de 8 mois pour que la vente se fasse. Sauf qu'une telle vente, elle ne se fait pas aussi facilement qu'un paquet de riz au supermarché. Maintenant que les offres ont été déposées, elles vont devoir être examinées par souci de concurrence, d'autant plus que ce sont de potentiels gros acquéreurs qui ont tous déjà un pied dans les médias. Donc l'examen pourrait se faire par la Commission européenne. Ou bien celle-ci pourrait renvoyer le dossier à l'autorité de la concurrence. Vous imaginez, ça allonge déjà les délais. Ce qui fait dire au président de l'autorité de la concurrence, justement, Benoît Cœuré, ceci devant les sénateurs.
Je ne dis pas que ce n'est pas faisable, mais c'est dans tous les cas de figure très, très tendu.
Très tendu, donc. Mais ce n'est pas tout, parce qu'il faut après que la vente soit examinée par l'ARCOM. Je vous passe les détails des étapes précises. Merci. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça prend du temps, beaucoup de temps. Et c'est ce qu'a bien fait comprendre le président de l'ARCOM, Roch-Olivier Maistre, au sénateur hier.
Le calendrier est plus qu'ultra serré.
Mais il est encore faisable.
Le calendrier est extrêmement serré. Je suis vraiment extrêmement clair devant vous. Je le dis ici très clairement. Le processus d'appel à candidature fixe un compte à rebours qui rend les choses extrêmement contraignantes et extrêmement serrées, plus que serrées.
pas très optimiste, hein, monsieur Maistre, qu'il a précisé que l'ARCOM n'avait pour l'instant pas été saisi en plus. Hein. Il répondait aux questions simplement sur la base des informations qui ont été dévoilées par la presse.
Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, Gilles Pélisson, PDG de TF1, et Nicolas Taverneau, président du directoire du groupe M6, publient ensemble une tribune dans le journal Le Monde.
Mais alors, quel sujet peut bien unir ces trois concurrents? Quel sujet peut bien les pousser à prendre la plume ensemble? Mais il y a bien une histoire de plateforme, vous allez voir. Ces trois patrons appellent en fait les plateformes américaines à respecter un accord qui a été signé en début d'année. Un accord qu'on appelle la chronologie des médias. Alors derrière ce terme un peu barbare, ça vous concerne, mesdames et messieurs les auditrices et auditeurs, puisque c'est la réglementation qui décide quand vous pourrez voir les films après leur sortie dans les salles, quand ils seront diffusés sur les plateformes américaines ou sur Canal+, et sur les chaînes de télévision gratuites françaises. On va prendre un exemple pour bien comprendre. Imaginons un film qui sort au cinéma, appelons-le Les Incroyables Aventures de Thomas Hill, par exemple.
Passionnant, ça sent le succès, ça.
Oui, un blockbuster. Les règles sont les suivantes. Avant qu'il soit mis en ligne sur la plateforme Disney+, il faut attendre 17 mois. Et avant que ce film ne passe à la télévision gratuite, c'est-à-dire sur TF1, France Télévisions ou M6, il faut attendre 30 mois. En fait, ça, les plateformes l'ont obtenu grâce à ce nouvel accord. Elles passent avant les chaînes gratuites. Ce n'était pas le cas avant l'accord. Ça favorise donc les plateformes américaines, puisqu'elles ont l'exclusivité avant les chaînes de télé. Vous me suivez ?
Ouais. C'est pas juste.
Mais il y a une autre règle. Et oui, ça se complique. Pour permettre aux chaînes de télé gratuites de garder quand même une forme d'exclusivité lorsqu'elles diffusent le film. On reprend notre exemple.
Ouais,
quand Les Incroyables Aventures de Thomas Hill passeront sur TF1, par exemple, Disney+ aura alors l'obligation de retirer son film de sa plateforme. Et c'est là que ça coince. Ah. C'est là que Disney+ n'est pas d'accord. La plateforme a donc engagé un bras de fer avec le gouvernement français, en menaçant de ne plus sortir les films produits par Disney au cinéma, mais directement sur sa plateforme. Un gros, gros manque à gagner pour les salles obscures, et donc indirectement pour le financement du cinéma français. Et ce n'est pas qu'une menace, hein. Ce sera le cas d'ailleurs du film d'animation Strange World, très attendu. La France est le seul pays où il sortira uniquement sur la plateforme.
C'est ça le problème, c'est que ces plateformes sont tellement énormes qu'elles ont des moyens de faire plier tout le monde. Et donc les patrons de France Télé, TF1 et M6, ils appellent au respect de l'accord.
Exactement, d'où la tribune. Ils demandent au pouvoir public de ne pas céder aux diktats, je cite, des plateformes payantes. Ils veulent que leur exclusivité soit bien reconnue, c'est-à-dire la règle dont je viens de vous parler. Quand un film est diffusé à la télé, il doit être retiré des plateformes. Ces trois patrons rappellent que cette exclusivité, c'est en fait la contrepartie de leur financement au cinéma français, parce qu'en 2021, les groupes ont investi 144 millions d'euros dans 126 films, je cite, qui n'auraient sinon pas vu le jour. C'est deux fois plus que la contribution des plateformes américaines au cinéma français. Alors, ils décident d'interpeller le gouvernement avec cette tribune et finissent sur cette question. Souhaite-t-on que l'accès au cinéma en France soit réservé à des services payants ?
Du cinéma, on passe maintenant aux séries. France Télévisions annonce l'arrêt de trois d'entre elles.
On est fini Prière d'enquêter, Crime parfait et Police de caractère. Les audiences n'étaient pourtant pas si mauvaises, hein, mais il faut faire des choix. La directrice des programmes et des fictions, Anne Holmes, a accordé une longue interview à Allociné, dans laquelle elle se justifie. Bon, certains détails de ces séries fonctionnaient moins bien. Trop de duos, par exemple, pour Crime parfait, pour Prière d'enquêter, c'était le fait de mêler religion et enquête qui posait problème. Et puis elle ajoute, il nous faut aussi de la place, parce que si on veut lancer des pilotes, il faut arrêter certaines fictions.
Et alors justement, elle a aussi dévoilé quelques nouveautés dans cette interview à Anne Holmes.
Elle révèle le tournage en janvier d'une série sur une histoire d'amour gay. Et elle précise, vous verrez qu'on ne souligne pas le fait qu'on parle de deux hommes, on parle simplement d'un couple amoureux et de quelqu'un qui perd son grand amour. Alors ça va s'appeler « Tout ça, je te le donnerai », c'est une adaptation d'un roman espagnol. Anne Holmes confirme aussi une saison 8 de La Stagiaire et une 9e. Rien d'étonnant, vu
ça
les audiences.
Cartonné, ouais.
Ouais, je vous les ai données hier, la saison 7, qui a démarré avant-hier, a frôlé les 5 millions de téléspectateurs en moyenne. Bon, mieux que toutes les saisons précédentes en plus. Les audiences plus timides pour Marianne, mais bon, elle annonce quand même une saison 2, sans savoir pour la suite. Et puis elle confirme aussi la diffusion prochaine de la série du très populaire écrivain Michel Bussy, à qui ils ont laissé carte blanche, dit-elle. L'île prisonnière, c'est le nom de la série. Ce ne sera pas une adaptation d'un de ses romans, mais bien une création.
Merci beaucoup Louise Bernard pour toutes ces informations qu'on peut retrouver dans la newsletter média, inscription gratuite sur europe1.fr. Enfin, vous oubliez quand même l'information essentielle de la journée.
Je vous vois venir.
Excellent anniversaire,
merci.
Bien sûr, Louise. Ça me fait toujours
merci
plaisir
beaucoup.
De vous souhaiter.
Et vous voulez une info ?
Ouais.
J'ai le même âge qu'Arte, voilà.
Ça fait combien ça ?
C'est 30 ans.
30 ans ?
Hier, ça faisait 30 ans qu'Arte avait remplacé la 5. Voilà, petite info média au passage.
Beau.
Je transforme mon anniversaire en
c'est
une info média.
Merci, merci Louise. Vous parlez allemand ou pas ?
Oui.
Ah, en plus,
oh, yeah.
comment on dit bon anniversaire en allemand?
Herzlichen Glückwunsch.
Bien sûr, à vous, à vos souhaits. À demain, en tout cas, Louise, pour un nouveau journal des médias.
À demain.
Dans un instant, dans notre info média du jour, on va parler d'un mot qu'on entend beaucoup en ce moment dans les médias, la diversité. Mais au-delà des mots, quelles sont les évolutions, les progrès? On en parle avec la toute nouvelle chargée de la diversité à l'AFP. À tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Thomas Hill.
Diversité, le mot est en vogue à tous les étages de la société, dans les institutions, la politique, la culture, l'éducation et bien sûr dans les médias où beaucoup prennent des engagements en faveur de cette diversité, égalité hommes-femmes, représentation des personnes non blanches, des ultramarins, du handicap. Qu'est-ce que recouvre exactement ce terme de diversité? Quelles solutions pour arriver à une représentation un peu plus juste dans les médias? La semaine dernière, l'AFP a envoyé un communiqué de presse à tous ses contacts annonçant la création d'un nouveau poste de chargé de la diversité, et l'heureux élu est avec nous ce matin. Bonjour Jessica Lopez.
Bonjour Thomas.
Merci d'être avec nous. Alors vous êtes journaliste en charge donc de la diversité, désormais dans la principale agence de presse française, l'AFP. Mais là je vais citer votre titre au complet, d'une seule traite, sans respirer, et c'est une performance. Vous venez donc d'être nommée adjointe à la rédaction en chef centrale, chargée des principes rédactionnels et de la diversité à l'agence France Presse. Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors déjà, pour commencer, l'agence France Presse, c'est une agence de presse mondiale. Donc la rédaction en chef centrale, elle est un petit peu au-dessus de la rédaction en chef France, de la rédaction en chef, par exemple, pour l'Amérique du Nord. Enfin voilà, donc centrale.
C'est tout en haut.
Voilà, c'est tout en haut. Okay. Pour que ces questions, justement, de diversité irriguent toutes les régions, les 6 régions de l'AFP. Les principes rédactionnels, c'est tout simplement nos règles, nos consignes. On a quelque chose qui s'appelle le manuel de l'agencier. Et c'est notre outil à nous où on écrit, comment on écrit, quels mots on emploie, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire. Voilà, donc en fait, c'est d'animer ces principes rédactionnels, de veiller à ce qu'ils soient bien appliqués dans tout ce qu'on fait, aussi bien le texte, mais aussi la photo, la vidéo, les infographies, et donc de la diversité. Donc de façon très très large, l'AFP c'est 2400 personnes dans 151 pays, donc on n'a pas un corpus idéologique qu'on va suivre, c'est vraiment de mieux refléter finalement la société dans laquelle on vit.
Ouais,
et c'est ça la question qu'on se pose.
C'est la diversité dans les contenus et dans les personnes aussi qui nous délivrent ces contenus, dans les journalistes aussi. Alors qu'est-ce que ce terme justement de diversité, il englobe pour vous? Jusqu'où ça va? Ça concerne qui exactement la diversité?
Alors ça concerne un petit peu tout le monde. Nous, on a commencé ce chantier, évidemment, il y a 5-6 ans, en se posant la question de la sous-représentation des femmes. Et le fait de se poser la question de la sous-représentation des femmes dans nos contenus, on a fait faire des études par des sociologues. Et en fait, ça nous a amené à nous poser la question aussi d'autres personnes qui étaient moins visibles dans les médias. La mixité sociale, par exemple, l'origine ethnique, les personnes handicapées, c'est vraiment des questions qu'on se pose au quotidien. L'homogénéité, parfois, des rédactions peut conduire à une homogénéité dans les contenus.
Ça va jusqu'où? L'orientation sexuelle, par exemple, est-ce que ça en fait partie?
Oui, tout à fait, ça en fait partie. Après, il n'y a pas des quotas, il n'y a pas des choses. C'est vraiment se poser la question de l'équilibre. L'équilibre des sources qu'on interroge, l'équilibre des gens qu'on prend en photo. Ouais. À qui on va consacrer un sujet vidéo? Dans quel rôle sont les femmes qu'on interroge et dans quel rôle sont les hommes? Par exemple, on a fait une étude avec un sociologue qui a un algorithme, enfin voilà, il est à Sciences Po Grenoble. Et donc lui, il a déterminé que les verbes qu'on employait le plus souvent lorsqu'on citait un homme dans nos dépêches, les hommes y vont davantage proposer, annoncer, affirmer. Tandis que les femmes, elles vont plutôt raconter, murmurer, soupirer. Donc ça, c'est complètement inconscient. C'est donner aussi des rôles aux gens. Bien sûr, on n'a pas toutes ces études sur la diversité de façon plus large, sociale, ethnique, d'orientation sexuelle dans nos contenus. Sur les femmes, on a déjà fait ce travail.
Et davantage de choses. Mais social, voilà. Ça veut dire que, par exemple, la diversité, ça recouvre aussi le fait d'avoir, je ne sais pas, dans les rédactions, plus d'enfants, d'ouvriers ou d'agriculteurs.
Absolument.
C'est des choses auxquelles vous faites attention, ça aussi?
Alors, moi, je m'occupe essentiellement des contenus. Je suis basée donc au sein de la rédaction en chef centrale. Je ne suis pas du tout sur les questions RH. Mais en fait, il y a ce chantier en parallèle qui a été commencé l'année dernière avec un comité diversité qui, lui, a fait des propositions pour une meilleure diversité de profil au sein de notre rédaction à l'AFP. Donc voilà, ça c'est moins ma partie pour le
mais
coup.
Mais comment on le fait ça concrètement? Ça veut dire qu'on compte les personnes issues des minorités?
Alors on
par
ne peut pas compter. En France, les statistiques ethniques sont interdites. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut favoriser des bourses. Là, cette année, on a lancé le prix Michel Léridon pour la diversité en travaillant avec l'association La Chance. Donc voilà, qui aide des jeunes qui n'ont pas réussi les concours des écoles de journalisme à rentrer dans des rédactions. Donc là, on a notre premier lauréat qui est là depuis 6 mois et qui, voilà, et ça marche super. Donc on va poursuivre ça. On fait des bourses en Amérique latine, des bourses au Moyen-Orient. On a la bourse jeune professionnel en France qui permet pas à forcément des étudiants sortis d'école de journalisme d'intégrer l'AFP plus tard. C'est aussi comme ça qu'on va diversifier.
Vous dites on peut pas compter les gens en France, et c'est vrai, on peut pas faire de statistiques ethniques, mais enfin ça empêche pas par exemple l'Arcom qui a remplacé le CSA de dresser des rapports où on apprend par exemple qu'on a vu moins de personnes non blanches à la télévision en 2021 mais dans les programmes et les chaînes d'infos par rapport à l'année d'avant. On n'a pas encore les chiffres de 2022.
Très peu. Ils pointent une absence de mixité sociale, je crois que c'est 16% donc de personnes non blanches.
Mais ça veut dire que quelque part c'est compté quand même.
Alors alors ce qu'ils font, c'est très bien ce qu'ils ont mis en place. Et en fait, moi, ça m'a beaucoup aidé dans mes recherches sur ce sujet. Mais en fait, ils se basent sur la perception. C'est-à-dire qu'ils demandent à des gens de regarder la télévision et de dire si les personnes sont blanches, non blanches, si elles sont dans un rôle positif, dans un rôle négatif.
C'est comme ça que c'est réalisé.
Voilà. En fait, on se base que sur la perception qu'on a des gens. Évidemment, nous, on fait beaucoup d'écrits, mais on fait aussi de la vidéo. Donc, pourquoi pas le faire sur nos vidéos? Moi, à nouveau, je le répète, j'ai été nommée il y a 15 jours. Donc, le chantier démarre. Mais voilà comment on peut faire pour parler de l'origine ethnique.
Et alors vous avez rendu en mai 2022 un rapport sur la représentation des femmes et de la diversité dans les contenus sur tous les médias et dans toutes les langues de l'AFP. Quelles étaient les conclusions de ce rapport? Alors qu'est-ce que ça donnait?
Les conclusions, c'était qu'il fallait peut-être quelqu'un justement placé au sein de la rédaction en chef.
Ah, c'est bien joué, vous avez fait un rapport pour dire qu'il fallait quelqu'un.
Non, mais c'était aussi ce qu'on me demandait, c'était d'étudier le périmètre d'un poste dédié à ces questions. Donc c'est aussi la question à laquelle j'ai répondu. Et j'ai aussi interrogé des journalistes à l'étranger, pas uniquement en France. Mais voilà, pour impulser quelque chose. Depuis 2017, on se pose ces questions et il y a eu le Covid, il y a eu le Brexit, il y a eu des mouvements de revendications sociales, raciales, en France, dans le monde. Il y a le MeToo qu'on ne peut pas négliger non plus les effets du MeToo. Et en fait, on a le constat, mais ça bouge pas vite. Donc peut-être qu'avoir quelqu'un à là-haut, ça va bouger un peu plus vite.
Et aussi, donc vous le disiez, dans les recrutements, il y a 41% de femmes aujourd'hui dans les journalistes à l'AFP, c'est ça?
Alors,
l'AFP?
Absolument, la parité, il y a 41% de femmes à l'AFP, dans la rédaction c'est 44%.
Donc on n'est pas encore à la parité.
On n'est pas encore à la parité, et surtout on n'est pas encore à la parité dans les postes de manager. Et ça c'est un travail que toutes les entreprises doivent faire, je pense, en France.
Et alors c'est quoi la solution d'après vous? Est-ce que c'est la mise en place de quotas?
Non, déjà pour ça, il faudrait pouvoir compter et pouvoir avoir des indicateurs pour pouvoir avoir des quotas. Je pense qu'on peut se fixer des indicateurs sur certaines choses, par exemple les expertes. Je pense que nous, très clairement, on a un travail à faire pour citer plus de femmes dans nos contenus, dans tous les domaines. Mmh. Voilà, sur des sujets où c'est moins évident de trouver des femmes. Je le dis très franchement, j'aimerais qu'on arrive à 30% assez vite parce que là, en fait, on est à moins de 30%.
30% d'expertes?
Ouais. Féminine.
Interrogé, on n'arrive pas à avoir 30% d'expertes aujourd'hui.
Non, mais c'est toutes les études que vous lisez sur le sujet, c'est ça. En fait, il y a
s'explique ça?
Alors déjà, ça s'explique par le fait que mondialement, les femmes sont présentes dans un quart des contenus médiatiques. C'est le chiffre, c'est 25%. En France, c'est 29%. Ouais. Le Haut Conseil à l'égalité a aussi fait une étude l'année dernière où c'est à peu près 23% de femmes dans les contenus médiatiques et dans 80% des articles qu'ils ont étudiés, un homme était sujet de cet article. Donc c'est ça déjà qu'il faut améliorer. Et donc parmi celles-ci, il y a aussi les expertes. C'est une difficulté supplémentaire, c'est-à-dire interroger une femme qui va vous donner un savoir, apporter la réflexion dans votre article, dans votre sujet vidéo, et plus souvent, on trouve des hommes.
Ouais, on voit que le champ, en tout cas, est extrêmement vaste et que votre mission est importante. Merci beaucoup, Jessica Lopez,
d'être
venue
Thomas.
Nous voir ce matin. Je rappelle donc que vous êtes la nouvelle adjointe à la rédaction en chef chargée de la diversité à l'AFP. On vous souhaite bonne chance dans cette nouvelle mission. Dans un instant, on sera avec une actrice qui apporte un peu de diversité, justement, dans le cinéma français. Elle nous fait beaucoup, beaucoup rire dans sa nouvelle série. Mela Bédia sera avec nous. Et on retrouvera également Bruno Donnet, bien sûr, pour ses télescopages. À tout de suite sur Europe 1.
9h-11h, Europe 1 Culture Média, Thomas Hill.
Culture Média, la suite, et notre invitée ce matin est une humoriste, une actrice, désormais une auteure, réalisatrice et bientôt une costumière, preneuse de son et dresseuse d'animaux. Oui, elle a toutes les casquettes. Mela Bédia est avec nous. Bonjour Mela, merci d'être là.
Merci à vous.
Miss Kina, la pauvre, votre série, votre bébé va être révélé au monde entier.
C'est ça.
Demain, 30 septembre, ça va? Vous êtes en stress là?
Je suis stressée. C'est comme le Covid quand il y a la pandémie, moi je suis hypochondriaque. Tellement ça devenait grave et mondial.
Ouais.
Bah, j'ai arrêté de me stresser tellement j'allais mourir sinon.
C'est ça, il y a un moment, il faut se protéger. Quoi.
Donc là, ouais, je suis entre excitation et vomi.
Voilà, parce que c'est quelque chose d'énorme là, quand même pour vous, là, ce qui se passe.
Bah oui, et puis j'ai mis beaucoup de moi, et puis on a travaillé beaucoup aussi, donc ouais, on a hâte et on a peur, quoi, c'est normal.
Alors Miskina, c'est l'histoire de Farah, 30 ans, sans appart, sans boulot, sans mec, mais avec une forte myopie, c'est le fils qui dit ça. Et alors comme elle a sa mère, sa grand-mère et sa sœur qui ne la lâchent pas, et bah, il va falloir qu'elle trouve un moyen finalement pour changer sa vie. C'est un peu Tanguy qui rencontre Bridget Jones, hein,
exactement,
c'est un peu ça.
Ouais. Et qui prennent un scooter et qui essaient d'avancer, mais je crois qu'il n'y a pas tout le temps d'essence.
C'est ça, et qui galère pas mal. Hein,
ouais, c'est ça.
On peut le dire.
C'est vraiment l'anti-héroïne à la française avec des bourrelets, quoi. Vraiment, c'est ça qu'il faut garder en tête.
Allez, un petit extrait de la bande-annonce.
Ma vie, c'est un peu le bordel, quoi. J'ai pris 30 kilos, je suis sur place depuis que j'ai 12 ans.
Parce qu'elle habite encore chez sa mère à 30 ans.
C'est bien ça.
C'est les tanguis que ça s'appelle. C'est pas attirant les tanguis.
C'est son premier ramadan.
Toi t'as pas mangé ce matin, toi. Tu vas galérer de foudre, tu sais ça.
Tu sais que le petit-déj c'est LE repas le plus important de la journée.
Je vais te faire la misère à Kippour, t'es pas prêt.
Machallah. Fait longtemps que tu le kiffes?
Je le kiffe pas du tout. C'est mon meilleur ami.
C'est marrant parce que vous aviez l'air hyper connecté toi et lui.
C'est bien ça le problème.
Ce garçon vous plaît parce que c'est impossible entre vous.
C'est normal que ce soit plus dur pour toi. Mais moi je te vois, tu vas y arriver.
Histoire inspirée à 50% de votre vie, à peu près, c'est ce que vous dites.
À peu près, ouais. Je garde quand même des cartouches pour les autres saisons, peut-être.
C'est ça. Alors, qu'est-ce qui colle dans l'histoire avec votre vraie vie et qu'est-ce qui est très loin?
Bah déjà, moi, je suis une mesquina. Et une mesquina, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est quelqu'un qui essaie, qui s'efforce, qui est bienveillante, qui essaie de faire les choses comme on lui demande de faire et elle trébuche et ça marche pas, quoi. Donc, ouais. Je pense déjà qu'on est tous une mesquina ou un mesquine quelque
forcément.
Part. Hein. Ouais. Là, je te regarde et je me dis oui.
Bien sûr.
Tu portes des lunettes. Ouais. Le matin, il se réveille. Si tu les trouves pas. Ah, miskine, tu vois,
c'est ça.
C'est relou quand même.
Ouais. Donc ça nous arrive tous, c'est sûr.
Bon, on est tous un peu le miskine ou la miskina de quelqu'un.
Voilà. Alors, et y a quoi d'autre dans la série qui est vrai?
Moi, j'ai vraiment grandi avec mes grands-parents. Alors, ma grand-mère, ma mère et ma sœur, et après, il y avait mes frères. Mais si je me concentre que sur les femmes de ma famille, c'est vraiment comme dans la série. Déjà, Farah, c'est mon deuxième prénom, donc pour le coup, je m'en vraiment pas.
Ouais.
Et en plus, j'ai vécu avec ces trois générations-là, quoi. Il y avait trois visions de l'amour, de la spiritualité, de la famille, de la société. Donc ouais. C'est vraiment ce pavillon de femme qui m'intéressait à la base en écriture.
L'absence du père aussi, qui est dans la série.
Oui, il est toujours absent. Hein. Il est revenu un petit peu, mais c'est parce que je suis passé chez Ruquier.
Ah, c'est ça.
Ouais.
Non, parce qu'il y a énormément de choses dans cette série. Peut-être trop, d'ailleurs, maintenant. Est-ce que c'est pas un peu chargé?
Je sais peut-être, c'est comme moi. Non. Hein, c'est trop, un peu chargé.
Non, il y a beaucoup de thèmes qui sont réunis en une seule série. C'est ça qui est chouette. Il y a les histoires de famille, le rapport, je le disais, au père absent et aux autres qui sont trop présents, pour
bien
le
sûr.
Coup. C'est une famille de femmes, uniquement. Et ça, c'est original aussi, parce que c'est pas trop vu, finalement.
Déjà, si on s'arrête juste sur les femmes, je te parle que de cette minorité-là. Les femmes.
Ouais.
Moi, j'en ai pas vu beaucoup des séries de femmes qui grandissent ensemble avec trois visions différentes de la vie, quoi.
Ouais.
Et c'était intéressant. C'est pour ça qu'on avait besoin de ces trois personnages pour voir les choses différemment, parce que dans une famille, qu'elle soit, parce que c'est vrai que là, on parle d'une famille qui est issue de l'immigration et de confession musulmane pour certaines. Mmh. Mais en vrai de vrai, si tu regardes, on a tous les mêmes problèmes de famille. C'est en ça que c'est un peu universel. Une famille, c'est une famille. Le dimanche, t'as la flemme d'aller manger la blanquette de veau ou le couscous. Et il y a des non-dits, il y a des gens qui se disent pas les choses depuis des années.
Ouais.
T'as des gens qui restent coincés dans le passé, t'as des gens qui sont ronchons. On a tous une grand-mère ronchonne, par exemple. Tu vois.
Bien sûr.
Donc voilà, en fait, c'était plus sur la famille.
À la vôtre dans la série, elle est costaud. Hein.
Ah, la grand-mère. Ouais. Elle ressemble beaucoup à ma vraie grand-mère.
Ah, c'est vrai?
Ouais.
Et puis alors, Miskina, c'est aussi une histoire d'amour avec votre meilleur pote qui est peut-être un petit peu plus. Hein. On verra ça au fur et à mesure
aussi,
de la série.
C'est l'histoire de ma vie, hein, de tomber amoureuse de tous mes meilleurs amis.
C'est vrai? Ça, c'est joué par l'excellent Hakim Djemili. C'était
excellent.
Un pote à la base.
Ouais, c'est un pote. On montait sur scène ensemble.
Ah, d'accord.
Du coup, on se connaît depuis, quoi.
Ouais.
Et c'est surtout un grand acteur. Et tout le monde le voit en rigolo de service, mais
ah non, il est très
bon. Y a pas que ça, quoi.
Ah ouais. Et alors, on joue sur la frontière entre l'amour, l'amitié, parce que vous êtes hyper complices tous les deux. Vous avez notamment un petit jeu qui consiste, j'adore ce jeu, à imaginer les dialogues de gens que vous voyez parler dans la rue, comme ça. Ça sent le vécu, ça. C'est le
ça,
genre
je
de
l'ai
truc
fait
que vous avez
beaucoup,
fait,
beaucoup. Ouais. Station Gabriel Péri, ligne 13, avec mes potes et mes meilleurs amis de l'époque, et on adorait faire ça et inventer la vie des gens qui passaient, quoi.
Et il y a une part d'impro dans le tournage, justement, sur ce type de scène. Je me demandais où tout est très millimétré, vous avez tout écrit.
Moi, je viens vraiment de l'impro, donc pour le coup, tout était écrit en base.
Ouais.
Et après, quand on a des des acteurs super comme un Victor Belmondo, une Shirin Boutella ou même un Hakim Gemili qui est très friand de l'impro comme moi. On avait un Anthony Marciano qui nous disait « Ok, on va faire une fois le texte et après lâchez-vous. »
Après, vous vous amusez. Ouais. Et puis ce qui est sûrement le plus intéressant dans cette série, c'est ce portrait que vous faites d'une famille musulmane d'aujourd'hui parmi tant d'autres. C'est vrai que la religion, elle est très présente dans la série parce que vous tentez de devenir une bonne musulmane, d'aller à la mosquée, de lire le Coran pour les débutants, de respecter les règles du Ramadan. Et il faut dire que vous galérez pas mal. Quel rapport vous avez, vous, avec la religion ?
Bah, moi, disons que c'est beaucoup ma grand-mère qui m'a transmis ça parce que j'ai vraiment vécu avec elle. Ouais. Ma mère, elle avait encore une autre pratique de l'islam. Tout le monde était pratiquant à la maison. Et c'est vrai que moi, à mes 13-14 ans, je me suis dit, bah, pourquoi, par exemple, je veux faire le ramadan, je veux comprendre pourquoi je mange pas de porc. Donc, du coup, je suis allé à la Fnac Saint-Lazare et j'ai acheté la Torah, la Bible et le Coran. Et je me suis dit, waouh, c'est génial, j'ai trouvé mon équilibre en lisant déjà. Je me suis dit, ça suit.
Ouais.
C'est cool, il n'y a pas d'embrouille jusque-là. Et après, je me suis mise à étudier ma religion. Donc, Et je suis pratiquante, mais je trouve ça cool d'être pratiquante et de trouver le bon équilibre. Et c'est vrai que par moments, je sais que ça fait un petit peu peur, la religion en général avec un grand R. Et l'islam, je crois que c'est pas celle qui est en odeur de sainteté, sans mauvais jeu de mots.
Pas la plus populaire du moment, c'est ça
que vous... Je crois que les médias, ils la kiffent pas trop de ouf. Hein.
Ouais, bah franchement,
enfin,
ça
quand
fait...
j'allume la télé, ça fait genre ça... un an ou deux où c'est pas la folie, quoi.
Mais ça fait du bien, justement, de voir une série comme la vôtre, parce que ça donne une toute autre
bah,
image.
Du coup, on se dit, c'est la même chose. Alors, il y en a, ils vont au catéchisme, moi, bah, je vais à la mosquée. Enfin, tout est pareil quand on prend le parti pris de parler d'une famille, en fait.
Et puis avec de l'humour, parce que vous allez même convertir votre beau-frère Maxime Goulard, dit le bouffeur de Knaki.
C'est ça.
Ça c'est très, très drôle. Non, c'est une série très drôle, mais aussi très tendre. On sent que vous n'avez pas cherché à faire une pure comédie où on va chercher le rire toutes les 10 secondes. Vous avez aussi cherché à faire passer des messages.
C'est ah, je crois qu'il y avait un extrait genre d'un message que j'ai voulu faire passer. Non, pas du tout.
Non, je vous le demande.
Ouais, alors après, nous, on n'avait aucune velléité à se dire on va faire passer des messages. Après, s'il y en a, tant mieux. On a essayé d'être le plus sincère possible et d'être proche de la réalité des vraies familles qui sont issues de l'immigration. Alors parfois, il y en a dans une famille qui sont pratiquantes, il y en a qui ne pratiquent pas, comme dans toutes les familles
c'est
du
ça,
monde en
et
fait.
Tout. Et on va continuer à parler avec vous, Léla Bédia. Mais d'abord, on va faire une petite pause fraîcheur, si ça vous va. On va vous apporter un petit verre d'eau, un café, qu'est-ce que vous voulez.
Ah, c'est pour Europe 1 ?
Ouais, c'est nous qui payons.
Attention, parce que je suis sociétaire aux grosses têtes. Je vais leur dire ce que vous m'avez servi le matin.
On est généreux ici, vous allez
super.
Voir. Et puis on va retrouver le plus frais de l'équipe, Bruno Donnet, pour ses télescopages. A tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Thomas Hill.
Quel bonheur de recevoir ce matin l'actrice humoriste Léla Bédia qui sort demain sur Amazon sa première série qu'elle a réalisée elle-même, Miskina la pauvre. C'est un régal et c'est à voir à partir de demain. Mais avant d'en reparler, il est 9h44 et c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno.
Bonjour Thomas.
Bienvenue. Alors tous les jours Bruno, vous observez ici les réflexes médiatiques et ce matin, vous vouliez attirer notre attention sur un phénomène très spectaculaire, le panurgisme journalistique.
Oui, vous vous souvenez Thomas des fameux moutons qui, après que Panurge eut décidé d'en jeter un à la mer, périrent tous noyés pour avoir suivi sans réfléchir le premier du troupeau. Ouais. Eh bien, figurez-vous qu'il existe aussi, chez les journalistes, un esprit suiveur et moutonnier qui m'a tout particulièrement sauté aux yeux hier. Alors, pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que pour illustrer le thème de l'inflation et de la hausse des prix, nos petits camarades sont tous allés au même endroit.
Encore des hausses de prix chez les boulangers.
Ils sont allés chez le boulanger. Pourquoi faire ? Eh bien, pour surveiller le prix de la baguette de pain, mes enfants. Sur France 2, Julien Bugier, on a carrément ouvert son 13h avec le sujet.
La baguette pourrait bientôt passer à 1,50€.
Et sur TF1, à 20h, Gilles Boulot s'est posé rigoureusement la même question.
Cette question à présent, votre baguette de pain coûtera-t-elle bientôt 1,30€ ou même 1,50€ ?
Bon, BFM TV, je vous rassure tout de suite, n'était pas en reste, hein, ah. Qui dès l'aube avait dépêché l'un de ses plus fins limiers. Où ça ?
Cédric Fesch, qui est d'abord ce matin chez son boulanger.
À la boulange, comme tout le monde, avant d'y retourner en début d'après-midi, mais cette fois-ci avec un autre journaliste un poil plus ironique et un tantinet circonspect.
Le pain. C'est la vie. Et donc, cet après-midi, on s'intéresse au prix de la baguette.
Voilà, et puis je ne serais pas complet, Thomas, si je ne vous disais pas que j'ai aussi vu le sujet traité de la même façon sur RMC non. Story par Estelle Denis.
On est avec Romain, bah, ça tombe bien parce que Romain, il est boulanger.
Et sur l'ensemble des chaînes infos qui nous ont toutes régalé de leur fameux micro-trottoir, toujours plus croustillants les uns que les autres.
1,50€, 1,60€, on ne sait pas où ça va, comme l'essence.
Alors pourquoi est-ce que cette petite affaire de panurgisme effréné est intéressante ? Eh bien parce que pour illustrer l'inflation, les journalistes auraient tout à fait pu se rendre dans n'importe quel autre type de commerce. Partout, les prix augmentent et hier soir, par exemple, France 3, qui était la seule chaîne à ne pas avoir cédé aux sirènes de la baguette de pain, était là.
Un hiver sous haute tension à venir dans cette boucherie du Grand Est.
Ah. Chez un boucher. Mais alors, pourquoi donc les télévisions étaient-elles toutes chez le boulanger et qu'est-ce que ça raconte de notre métier ? Eh bien, si elles sont toutes allées à la boulangerie, Thomas, c'est pour deux raisons. 1. La télévision adore les angles concernant Coco et la baguette de pain, eh bien c'est l'incarnation absolue du quotidien et de la proximité à laquelle l'information croit dur comme fer qu'elle doit coller pour séduire ceux qui la suivent encore.
C'est une catastrophe parce que le pain, c'est quand même quelque chose dont on a besoin tous les jours.
Et 2. La télévision aime la simplicité et la démonstration par l'image. Or, la baguette de pain en permet une merveilleusement lisible.
Je prends une baguette, je la coupe en deux.
Partout, hier, j'ai donc vu cette image, celle de la baguette de pain, coupée en petits morceaux pour illustrer le montant des charges.
Là, j'ai 50% de la baguette, c'est ma masse salariale.
Où l'on comprend, Thomas, que non seulement les moutons vont tous au même endroit, mais qu'en plus, ils fabriquent tous les mêmes métaphores. Il m'échoit aujourd'hui de vous parler méchoui et média. Panurge, n'en espérez pas tant.
Ah, merci Bruno, et une pensée pour Bruno Donnet qui a passé beaucoup de temps, j'imagine, devant sa télévision hier pour nous livrer ses télescopages. Solitudine, qui fait partie de la bande originale de la série Viskina, la pauvre de Mela Bedia 2, et avec Mela Bedia, où elle écrit, elle réalise, elle joue le premier rôle. Ouais, c'est bien servi quand même dans cette histoire.
Faut pas déconner si je me l'écris. Attends, tu voulais que je mette qui, ma cousine?
Ah non, non, bien sûr, bien sûr. C'est bien servi que par soi-même. Ça débarque demain sur Amazon Prime Video. Est-ce que ça change quelque chose d'ailleurs de bosser pour une plateforme plutôt que de bosser pour une chaîne?
Franchement, moi j'avais juste l'expérience d'avoir écrit un long métrage qui était destiné au cinéma et qui a fini sur une plateforme, malheureusement et heureusement, dans les deux sens. Mais on a un peu plus de liberté, je trouve. Ouais, après, c'était une série, donc je saurais pas te dire si c'était parce que c'était un changement de long métrage à série ou si c'est, je sais pas, mais je crois que quand t'as une série, déjà tu peux beaucoup plus t'amuser et t'as beaucoup plus de liberté et d'espace.
Mais est-ce que vous pensez franchement que cette série, elle aurait été possiblement diffusable sur TF1 ou France 2? Est-ce qu'ils auraient pu vous l'acheter?
Peut-être Canal Plus. Je sais pas. Honnêtement, franchement, c'est une bonne question parce que je me la suis pas posée et on me l'a jamais posée. Mais j'ai l'impression que t'es quand même plus libre. J'ai l'impression que t'es un peu plus libre sur les plateformes ou même Canal Plus, ils auraient pu être là-dedans, tu vois. Ouais, dépend en fait, je pense. L'édito.
C'est ça. Alors, pour donner un peu le ton, justement, et le style des dialogues, un petit extrait, vous êtes en train d'essayer une...
À chaque fois, je regarde la télé alors qu'il n'y a rien.
Non, il n'y a pas de télé. C'est vraiment audio ici. Hein. C'est vraiment le principe de la radio. Vous êtes en train d'essayer une magnifique robe rose pour le mariage de votre sœur.
Bien sûr.
Alors, c'est comment?
Les chaussures, tu vas m'emmener les essayer à Charles de Gaulle?
Alors, chaussures, bête de plan. J'ai mon pote qui travaille chez Louboutin, mais il peut sortir que du 41, il m'a dit. Mais si tu mets des semelles, ça passe.
T'as des vrais plans, toi, mais que approximatif. C'est ça qui est bien.
T'es en train de te foutre de ma gueule là? Non, parce que là tu te rends pas compte en fait du cadeau que je te fais là. T'es en train d'enfiler la robe de Kendall Jenner et de Rihanna à prix d'usine et t'es en train de te plaindre. C'est un truc de fou, dis-moi Chalane, une fois dans ta vie, Farah.
Non, est-ce que tu crois que Rihanna a laissé aussi ses robes entre une BP et la brioche dorée?
Les dialogues sont vraiment ciselés, c'est très bon. Cette série, vous l'avez créée avec Johan Grond, Xavier Lacaille, c'est le Samy de Parlement.
Bien sûr, exactement.
Comment vous avez travaillé tous les trois? Comment ça marche?
Déjà, on a commencé à 3 et on a fini à 6. Donc c'est pour vous dire qu'après, des autres scénaristes de talent nous ont rejoints. Il y avait Paul Rottman, Mehdi Fikri, Joséphine. Et au début, moi j'étais toute seule avec Johan. Et il y avait une phrase sur la feuille blanche. Il y avait écrit « meuf qui galère, point ».
Je te jure que c'est vrai. Ça part bien.
Et du coup, on a rencontré Xavier Lacaille qui a été très inspiré par cette phrase. Et on a commencé à discuter. Il voulait qu'on... Moi, j'ai parlé énormément de moi. On a commencé à écrire tous les trois. Après, on avait besoin de renfort parce qu'une série, il faut vraiment être nombreux. Et du coup, non, franchement, au début, on ne savait pas où on allait dans tous les sens. Mais c'est ça la beauté d'un truc. Quand
Xavier Lacaille, qui est un surdoué de l'écriture.
C'est
on peut
un
le dire,
génie, c'est le meilleur, je vous le jure. Hein. Ouais. Et en plus, je le vois quand je dis Xavier Lacaille maintenant et tout. On me dit, ouais, t'as réussi à avoir Xavier Lacaille.
C'est vrai.
C'est genre quand t'écris un projet et que t'as Xavier Lacaille,
Mais il est sur tous les projets maintenant, il est demandé partout.
Oh non, non, il refuse pas mal, ouais, je l'entends au téléphone.
Il est fort. Et donc c'est vous quand même qui réalisez cette série, même si vous êtes
Je co-réalise avec Anthony Marceau. Ouais.
C'était pas trop dur de cumuler autant de casquettes?
J'ai compris le premier jour de tournage que j'allais devoir être derrière et devant la caméra. Tu sais, dans ma tête, je faisais que réaliser. Ouais. J'avais oublié que je devais jouer. Et du coup, c'est là que je me suis dit, waouh, est-ce que je vais avoir le recul nécessaire? Et du
c'est
coup,
compliqué ça?
Ouais, je sais pas comment ils font. Hein. Ceux qui réalisent et qui jouent dedans... Je sais pas comment ils font, vraiment, je salue leur courage et leur talent, parce que c'est trop trop dur de se regarder.
C'est ça, faut arriver à se regarder et à être juste sur soi-même.
Ouais, c'est une cata. Faut être très 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 bien entouré, je pense.
Bon, et alors ce oh miskina, la pauvre, elle a pas de chance. Pourquoi on disait ça de vous quand vous étiez plus jeune?
Parce qu'à chaque... déjà on m'en demandait beaucoup, je pense, et je voulais toujours aider, et à chaque fois que j'essayais, je ratais. Ou ouais. Je trébuchais, ou je faisais mal, ou les gens me reprochaient que je faisais pas assez bien. Et je me suis rendu compte, en vrai, que dans tout mon entourage, ou même mes potes, ou des gens que je connaissais vraiment pas, il y a toujours quelqu'un, si tu regardes bien, si tu le trouves pas dans ton entourage, c'est que c'est toi, hein, le miskin. Mais il y a un truc de... Tu sais, t'as toujours quelqu'un quand tu parles de, je sais pas, hier j'étais avec Inès, et la pauvre, putain, elle s'est encore faite larguer, miskina, la pauvre. Tu sais, c'est vraiment devenu une ponctuation, le miskina ou la pauvre.
Ouais, ouais.
Dans le sud de la France, ils sont entre peu cher et la pauvre. Il y a un truc de... C'est une virgule maintenant dans ouais. la vie de quelqu'un. Et donc, du coup, ouais, j'avais envie de parler de ces gens-là. Mais je crois qu'on est très nombreux, en fait.
Ah, mais ça,
c'est pas
clair.
Une minorité.
Et alors, vous, on vous a souvent fait faire aussi des rôles de cancre, alors qu'en fait, j'ai vu que vous étiez une super bonne élève.
Ouais, ouais.
Vous avez eu votre bac à 16 ans, c'est ça?
Oui, j'étais une bonne élève. Après, je foutais un peu le bazar. Hein.
Ah, quand même.
Il y avait du bavardage, quand même.
D'accord, ça
mais oui, j'étais assez bonne élève et j'avais sauté une classe. Du coup, tous les médias ont mis leur espoir sur moi. Ils pensaient que j'allais finir à l'ENA ou à HEC, donc vraiment.
Ouais. Et alors, au départ, c'est plutôt le frère qui a réussi, Ramzy?
C'est Ramzy, ouais.
Et est-ce qu'il vous a mis le pied à l'étrier?
Non,
ou
du tout, vraiment. C'est
Diams, hein.
C'est Diams qui m'a mis le pied à l'étrier. Et Ramzy, surtout, il était réfractaire. Parce que
Pourquoi? Il voulait pas qu'il y ait une autre star dans la famille? Ou,
je sais pas
il
si était c'était
protecteur,
ça. Il était très protecteur. Et puis, je suis arrivé pile l'année où le frère de Jamel voulait monter sur scène, le frère d'Omar voulait devenir rappeur. Donc, c'est-à-dire que
ça
quand on
trop.
Se retrouvait, il s'est dit « Ok, j'ai compris, eux, ils veulent tous briller, ça y est. » Enfin, il pensait que c'était une petite lubie, alors que moi, c'était une vraie passion que je cachais.
Et donc, Diams, elle est venue vous chercher? Comment ça s'est passé?
Diams, c'était une amie de ma sœur. Et du coup, tous les dimanches, elle était là pour le couscous dominical, le fameux.
D'accord. Ouais.
Et du coup, à un moment donné, il manquait des merguez. Et je vous jure que c'est vrai, elle m'accompagne pour aller à la boucherie. Et on parle, et elle me dit, mais là, je venais d'avoir le bac. Et j'étais inscrite à la fac, et on m'avait accepté à la Sorbonne en double licence LLCE, je sais même plus ce que j'avais fait. Et du coup, elle me dit, mais tu vas faire quoi? Je dis, je sais pas, je me suis inscrite là parce que je suis bonne en anglais et j'aime bien les langues, mais j'ai pas de vocation tout de suite qui me vient.
C'est ça.
Et elle me dit, tu sais quoi, prends une année sabbatique, réfléchis à ce que tu veux vraiment faire pour les études. Tu seras styliste, habilleuse sur la tournée, tu vas découvrir un métier et puis surtout, tu vas réfléchir.
Vous ne pensiez pas du tout à l'époque à devenir actrice,
je pensais
tout ça, rien.
Surtout pas. J'y pensais dans un rêve secret la nuit avant de me coucher. Mais... Et je faisais un peu de théâtre, j'aimais bien quoi.
Ouais.
Mais j'assumais pas.
C'est
j'avais
ça.
Peur de mon grand frère qui voulait que je fasse des grandes études. J'avais peur de ma mère qui allait se dire encore un autre, comment on va faire. Enfin, lui, il a réussi, mais peut-être qu'elle, ça va être violent. Enfin, on ne sait pas.
Votre frère, il vous disait que c'était dangereux de faire ça?
Ouais. À lui, il ne voulait pas que sa petite sœur elle soit confrontée à ce métier, à ce milieu. Puis c'est dur, c'est un métier qui est violent. La majorité des gens, ils pensent que c'est cool et que c'est fun et tout ça, mais derrière...
Qu'est-ce qui est violent?
Le fait d'essayer de ne pas réussir tout de suite, le regard des autres...
Les doutes?
Les doutes, c'est perpétuel. Là, je suis en train de te parler, je doute. Hein, donc c'est pour te dire à quel point je crois que ça se règle jamais. Hein. mais c'est un métier qui est violent parce qu'il n'y a pas beaucoup de place en vrai.
Mais pourtant, se jeter comme ça sur scène, parce que c'est ce que vous avez fait en premier quand même, un one-woman show.
Mais c'est beaucoup grâce à Indiam, qui, après cette fameuse tournée, me dit « Mon premier jour de tournée à Angers, c'était au Shabada. »
Ah, c'est vrai?
Ouais.
Oh, c'est chez moi, ça.
Je te crois pas. C'est là-bas que j'ai compris que je voulais monter sur scène.
D'accord.
Ah, donc cool. J'adore Angers, j'ai un truc avec Angers.
Et super sale en plus.
Super sale.
Et là, ça se passe bien?
Et là, elle me dit « Habillage styliste », elle me dit « Et à la cantine, je vous jure, elle me dit « Tu vas monter sur scène et tu vas faire des blagues. » Je dis « Mais j'ai pas de sketch. » Et elle m'a jeté dans la fosse.
D'accord. Et la scène, quand est-ce que vous allez y revenir alors?
Très bientôt, j'espère. Franchement, ça s'appelait Fat and Furious. Comme j'ai maigri et regrossi, peut-être que je vais appeler Flask and Furious maintenant.
Oh non, oh, c'est pas possible. Ça, c'est vrai que c'est assez récurrent aussi, les blagues sur le poids. Il y en a quelques-unes dans Miskina la pauvre.
Oh,
qui...
il fallait.
Ah, bien sûr,
on
ça sort.
Il faut représenter les gros. Hein.
C'est ça, les minorités, ça sort demain sur Amazon. si on ne vous a pas encore donné envie de le regarder, sachez qu'il y a Paul Belmondo et
Victor Belmondo. Paul, c'est son papa.
Victor. alors le fils de Paul, pardon. Et ce que je voulais dire, c'est
que... Belha, la sœur de Ramzi.
C'est ça.
Ça, et, comme ça, c'est réglé.
Et vous, comme Bebel, vous faites vos propres cascades dans la série. Donc rien que pour ça, ça vaut le coup quand même.
Franchement, juste pour voir une grosse qui a plus de ligaments croisés, essayer de faire une cascade, aller au bout de l'épisode 6 ou 7. Et c'est 30 jours d'essai gratuit sur Amazon. Ils n'aiment pas Amazon quand je le dis, mais... En vrai, une adresse mail et un mois de gratuité.
Allez, là, elle est forte en attachée de presse, Mélanie Vidia. Merci beaucoup d'être passé
nous
voir
ce
matin
à
Culture Média. Ça continue sur Europe 1 après les infos de 10h. Notre invitée est la comédienne Anna Moudlalis pour la lecture musicale sorcière d'après l'essai culte de Mona Chollet. Et puis dans les indispensables de Stéphanie Lois, on va découvrir ses dernières petites pépites musicales. Et Nicolas Carreau nous parle du dernier roman de Gilles Marchand. Bien évidemment, l'excellent Jean-Luc Lemoyne sera aussi avec nous pour sa session de rattrapage. À tout de suite.